Backseat est également disponible en podcast sur Spotify. Retrouvez l'émission en audio et en intégralité dès la fin du direct le jeudi soir. Alors si tu aimes écouter l'émission, n'hésite pas à suivre Backseat sur Spotify ou sur quasiment toutes les autres plateformes de podcast. Et tout de suite, ta vidéo.
Bon, bah alors peut-être que maintenant que toutes les annonces sont faites, on va démarrer l'interview de l'invité politique. On accueille Philippe Brun, député PS de l'Eure, qui vient de démissionner de la direction du parti suite à un désaccord sur la constitution des listes européennes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous me perturbez.
Non, j'allais applaudir l'entrée de notre invité. Ouais, et je suis désolé, je te laisse faire.
Mais on applaudit l'entrée de l'invité, je ferai les présentations après. Philippe Brun, bonsoir. On est un petit peu dissipé là. Ouais. On va se ressaisir.
Je crois qu'il n'y a pas que de l'eau dans vos gourdes. Hein.
Non.
Ouais, c'est les... On dirait une émission de fin de saison, ça va être les vacances dans pas longtemps, tout le monde pète des câbles.
Alors que pas du tout, c'est le début de l'année. Non, oui. On se ressaisit. Donc, on disait que votre actualité, il y en a plein, mais vous venez de démissionner de la direction du parti suite à un désaccord sur la constitution de la liste aux européennes. On va en parler. Mais avant ça, bah, on aimerait bien vous connaître un petit peu mieux, Philippe Brun, parce que de la traduction dans Backseat, on va d'abord s'intéresser à votre parcours. Vous avez été adhérent au PS plusieurs fois. Vous avez commencé très jeune, je crois que c'était à 17 ans. Vous avez adhéré pour la première fois, c'est ce que dit votre page Wikipédia. Et vous y avez été de 2009 à 2015 et vous êtes parti. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, comme plein de gens qui ont voté François Hollande en 2012, j'étais très déçu de ce qui se passait. Et puis en 2015, on a eu un congrès au PS, tu t'en souviens?
Poitiers.
Qui s'appelait le congrès de Poitiers, où il y avait deux lignes en fait. Il y avait la ligne des frondeurs que moi je soutenais. Moi j'étais plutôt proche d'Arnaud Montebourg. Puis il y avait la ligne de ceux qui soutenaient le gouvernement de Manuel Valls. Je me rappelle pour les jeunes qui sont là.
Non, on s'en souvient de Manuel Valls, je pense que même les jeunes voilà. Qui sont là,
Philippe Brun,
ils s'en souviennent.
Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, mais un peu plus proche du micro,
voilà.
Vous entendez bien.
On a élu un gouvernement en 2012, on vote François Hollande, c'était une très belle victoire. On était très heureux d'avoir réussi à faire basculer, à sortir Sarkozy, avoir la gauche qui revient au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a au final? La loi travail, la déchéance de nationalité, le CICE sans contrepartie pour les entreprises, une très grande déception. Et donc on perd le congrès en 2015. Le gouvernement a une très grande majorité dans le Parti Socialiste. Et donc, à ce moment-là, moi, je décide de quitter le Parti Socialiste parce que je ne me reconnais plus dans sa ligne, qui n'était pas celle qu'on avait défendue devant les citoyennes et les citoyens en 2012. Donc, entre 2015 et 2022, j'étais sans parti. Et ça, je faisais de la politique localement, mais j'étais membre d'aucun parti politique.
On va y revenir. Mais alors, du coup, vous adhérez, vous avez 17 ans. Qu'est-ce qui vous amène à la politique si tôt?
Bon, moi, je viens d'un milieu plutôt de droite. Hein. Mes parents sont de droite dans l'Eure, donc dans la circonscription dans laquelle je suis élu, à Louviers, que Usul connaît très bien.
Oh, bah oui, je suis né.
Voilà, on est tous les deux de Louviers avec Usul. On est, voilà, on est.
Oui, oui.
Voilà, je sais qu'il y a quelques.
On se connaît bien, pas du tout.
Est-ce
on se connaît
seule
pas.
Ressemblance.
On se connaît pas. Voilà. Mais voilà, on est des gars de Louviers. Voilà. Donc, moi, j'ai un milieu plutôt conservateur. Et en fait, je me suis politisé au lycée. Voilà. Et
lycée des Fontenelles.
Et donc. En me politisant au lycée, j'ai décidé effectivement de m'investir en politique et le hasard a fait que j'ai adhéré au Parti Socialiste.
Le hasard?
Le hasard?
Voilà. Ou à les rencontres. Voilà.
Ah oui, c'est intéressant, le hasard, effectivement.
Enfin, à l'époque, il faut quand même se dire, en 2009-2010, à l'époque, le grand parti de la gauche, c'était le Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le parti de la gauche. Il y avait tout au Parti Socialiste. Il y avait des gens d'extrême gauche, il y avait Gérard Filoche qui venait de la LCR, les communistes révolutionnaires. Vous aviez évidemment la droite aussi, Manuel Valls. Ça. Ben voilà, il y avait une grande diversité. Donc si vous étiez jeune à l'époque, alors ça paraît complètement délirant aujourd'hui, mais quand vous étiez jeune, vous aviez envie de faire de la politique, vous alliez adhérer au Parti Socialiste parce qu'on n'allait pas aller au PC. C'était vraiment les vieux. Bon, voilà, j'adore le PC. Hein. Emilio, on t'adore.
Wow.
Voilà. Donc, mais à l'époque, c'était ça, le PS. Comme aujourd'hui, naturellement, un jeune, il va plutôt aller à LFI. Enfin, c'est plutôt comme ça que ça se passe aujourd'hui. À l'époque, un jeune qui voulait faire de la politique à gauche, qui voulait s'investir, il allait au Parti Socialiste.
Après, vous avez eu un parcours hyper chaotique. Sciences Po, HEC, l'ENA. Ouais.
C'est les années des glingues.
Mais vous devenez ensuite juge administratif, me semble-t-il. Et vous n'entrez pas en cabinet ministériel.
Sous Macron. Non.
Et après, non, vous décidez pas d'être apparatchik.
Alors, 2018, donc je sors de l'ENA, vous savez, on a un classement
qui
nous est donné, et j'étais pas du tout dedans. Ah. Et donc, le classement sort, et puis, pendant que le classement est en train d'être fait, on finit nos examens, je reviens chez moi à Louviers. On est en novembre 2018, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et donc là, j'arrive, donc vous prenez ma tête, vous multipliez par 3 le niveau de ringardise qui était la mienne, et donc j'arrive à Louviers, et je vois des gens sur les ronds-points. Et donc je vais les voir sur les ronds-points pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que même si je suis plus adhérent
en face d'Intermarché là, le...
exactement, le rond-point du Becquet,
le Becquet, voilà. Exactement,
exactement, voilà.
Et donc non, mais c'est, vrai.
Mais c'est vrai que c'est pas un passage classique ça, les gilets voilà. jaunes pour un cadre du PS ou
voilà. Donc là à ce moment-là moi je sors de l'ENA, j'étais un peu dégoûté de comment ça s'est, enfin, j'ai bien aimé, j'ai adoré ma scolarité à l'ENA, mais j'étais un peu dégoûté du système, de la politique de manière générale. Et là il y a ce truc extraordinaire qui se passe, vous avez des abstentionnistes militants, des gens qui votent plutôt à l'extrême droite quand ils vont voter, et qui sont des ouvriers et des employés, qui se retrouvent sur les ronds-points pour discuter ensemble de leurs conditions de vie misérables. Et ils parlent de quoi ? Ils parlent de rétablir l'ISF, ils parlent de nouvelles méthodes démocratiques avec le RIC, ils ne parlent pas d'immigration, ils ne parlent pas d'insécurité, ils ne parlent pas d'islam, ils ne parlent pas de viande halal. Et donc finalement, on a quoi ? On a la preuve que le peuple, en fait, a lui-même en fait, les moyens d'avoir une expression personnelle, a les moyens aussi de proposer de nouvelles institutions démocratiques. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et moi, les Gilets jaunes ont changé ma vie. Et donc à ce moment-là, je prends une décision forte. Je décide de ne pas aller travailler dans un ministère à Paris et de devenir juge administratif. C'est un métier qui permet en fait de télétravailler une grande partie de la semaine. Donc, je reviens habiter à Louviers et je prends l'engagement en fait qu'on va continuer à se battre avec les copains à Louviers et autour de Louviers pour finalement faire valoir toutes les idées qui sont sorties pendant le mouvement des Gilets jaunes.
On n'imagine pas qu'on devient juge administratif pour pouvoir faire du télétravail. Hein. Vraiment, c'était pas évident. Mais
j'adorais, c'était ma passion, le droit administratif. Mais je veux dire, il y avait entre plusieurs postes, si vous voulez, en sortie d'école. Celui-là me permettait, si vous voulez, d'habiter à Louviers. Sinon, il n'y avait aucun autre.
Dites beaucoup Louviers quand même. Hein.
Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, vous êtes présenté aux élections municipales à Louviers. Levasseur, à Louviers. Ouais. À
Louviers.
À Louviers. Louviers. Voilà. Louviers.
Okay. Je suis hypé par Louviers, les gars.
C'est la mecque des révolutionnaires.
Donc c'est là, grâce au mouvement des Gilets jaunes...
Il y avait Besancenot.
Besancenot, Usul. Voilà. Ouais,
ouais. Philippe. C'est
et c'est là que vous êtes intéressé particulièrement au sujet des classes populaires. Parce que,
Oui, ouais, je me suis toujours intéressé, évidemment. Mais là, ce qui était incroyable pendant ce mouvement des Gilets jaunes, c'était de voir des nouveaux sujets qui arrivaient sur le devant de la scène. Ces sujets que je porte aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La question du service public, totalement abandonné par la gauche depuis des années. La question des familles monoparentales. 25% des familles sont monoparentales, 83% sont des femmes, 40% vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est un sujet qui n'était pas tellement porté jadis par la gauche. Les questions de manière générale de les rémunérations. Ça, en fait, toute la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, y compris la crise agricole, la crise du pouvoir d'achat qu'on a vécu, en fait, elle prend ses racines dans ce mouvement des Gilets jaunes. Et puis, la question démocratique. Hein, on ne remettait pas en cause la Ve République. C'était très difficile que des mouvements un peu marginaux sur la scène politique remettaient en cause...
Bah non, vous parliez de Montebourg...
Oui, mais c'était marginal. Il n'arrivait pas à l'imposer au sein du PS. Mmh. En 2005, il y a un congrès au Mans, je crois, où il perd justement sur cette question de la Ve République. Donc, on n'arrivait pas aujourd'hui... Tout le monde à gauche est pour la 6ème République. Donc on voit bien l'empreinte du mouvement des Gilets jaunes sur ce qui se passe aujourd'hui. Et moi je pense que, à l'instar de mai 68, qui a été le mouvement qui a refondé la gauche dans les années 70, je pense que le mouvement des Gilets jaunes doit être le fil de la reconstruction de la gauche dans les années 2020. Et que c'est des idées de novembre dont nous devons nous inspirer pour à la fois retrouver les gens qui n'ont que leur travail pour vivre et qui votent plus pour nous aujourd'hui, et pour aussi donner, finalement, ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de la conquête sociale dans ce pays.
Sur les classes populaires, moi j'étais très content au moment où moi je suis sorti du PS de voir que des profils comme ceux de Philippe Brun rentraient justement pour être dans cette défense des classes populaires, parce que pour moi c'est ce qu'avait totalement abandonné le PS. Et en réalité je suis content, non, mais je suis... J'ai pas le mot, mais en tout cas, je vois que c'est aussi ce qui a causé la rupture et le fait que tu quittes la direction du PS, on va en reparler après. Mais toi, cette déconnexion entre le parti et les classes populaires, entre le Parti Socialiste et les classes populaires, sans parler de la liste aux européennes, on en reparlera après. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bon, moi, je pense que ça a été un fil extrêmement long. C'est-à-dire que ça fait des années, en fait, que les ouvriers employés ont tendance à ne plus voter pour la gauche de manière générale et pour le Parti Socialiste en particulier. Il y a eu à la fois, des trahisons sur le fond. On y reviendra. Et je pense que, bon, ici, on est bien au courant de tout ça. Et puis, il y a aussi un problème de forme. Donc, il y a un problème d'abord de représentation. On en reparlera. 80% des députés sont cadres, alors que 80% des Français ne le sont pas. Il y a un problème de langage politique. On a fait beaucoup de réunions dans toute la France là, pour la convention Retrouvons le Peuple dont j'ai démissionné. On disait, mais en fait, on ne comprend pas quand vous parlez à la télévision. Vous utilisez des mots que personne ne comprend. Qui est venu ici en mobilité douce ? Personne. Vous venez en vélo. Il y a tout un tas de mots qui sont utilisés, notamment par la gauche, qui sont incompréhensibles. Qui a des problèmes de pouvoir de vivre ? Personne. Problème d'argent. Vous n'avez pas d'argent pour manger. Enfin, donc il faut aujourd'hui que la gauche, je crois, se désembourgeoise et se décentre des centres-villes urbains. Alors, on est super bien ici dans le 20e arrondissement et on adore Baxit, mais il faut que, voilà, que la parole aussi de tout le reste du territoire et la parole des classes populaires, elles soient entendues. Et donc, il faut une meilleure représentativité. Alors, on en parlait, et un autre langage.
J'ai une petite question, du coup, par rapport à ça. Pourquoi avoir attendu les européennes pour tirer la sonnette d'alarme si c'est un constat que vous tirez depuis des années, finalement?
Alors, j'ai pas attendu les européennes, parce que moi, j'ai créé une école de formation pour les ouvriers et les employés en 2020 qui s'appelle l'école de l'engagement avec tout un tas de copains, qui fonctionne super, qui est le modèle français de l'école américaine Brand New Congress qui a révélé Alexandria Ocasio-Cortez. Et donc, ça fonctionne de la même manière et c'est gratuit. Vous pouvez tous d'ailleurs vous inscrire si ça vous intéresse. Et il y a une sélection, c'est des promos de 30 à 40 et tout est gratuit pour les élèves. On rembourse leur billet de train, on rembourse leur hébergement pour venir et ils ont des cours en télé. Non pas télétravail, mais en visio le soir. Voilà, donc ça, on a commencé. Ensuite, on fait une convention.
Vous avez des candidats, déjà?
Oui.
Alors, sort de l'école de l'engagement.
On en a eu en 2022. Marie-Pierre Noël était candidate NUPES à l'élection législative. Là, aux européennes, on en reparlera, on a essayé.
Les écologistes, on en reparle après, oui.
Les écologistes ont pris une candidate de l'école de l'engagement qui s'appelle Diarra Camara, qui est employée de banque. Elle est formidable. Elle va être sur la liste des écologistes. Et puis, on en a d'autres qui se préparent pour les municipales, car les municipales, ce n'est pas contrôlé par les partis dans les petites villes, dans les villes moyennes. On peut se débrouiller tout seul avec des listes citoyennes et faire des bons scores. Moi, Louvier, on est arrivé premier devant les autres. Donc, en fait, on voit bien que là, les municipales, on va pouvoir faire venir ces gens nouveaux. Et vous verrez, ils sont super bons, ils sont bien meilleurs que tous ceux qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Mais juste pour approfondir un peu la question, vous avez quitté le PS, vous en êtes revenu. L'école, c'était en 2020. La déconnexion du PS avec les élites, elle était déjà présente depuis assez longtemps. Pourquoi être revenu au PS? Pourquoi pas avoir choisi LFI, par exemple, ou le PC? Voilà, pourquoi le PS?
Alors, en 2021, je soutiens Montebourg. Donc, c'est assez logique avec tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Et on fait une campagne dans la France des sous-préfectures. Et moi, je m'occupe de l'organisation de la campagne. Okay. Donc, je vais avec lui. On avait 3 francs 6 sous. On a fait une campagne vraiment... avec rien, on avait encore moins d'argent qu'à Baxit. Et donc, on a fait le tour de la France, France des sous-préfectures. Tous les endroits auxquels on a été avec Montebourg ont voté RN. C'est intéressant. On avait finalement une bonne analyse. Et puis, en 2022, je me suis posé la question, est-ce que je vais à LFI ou est-ce que je vais au Parti Socialiste ou est-ce qu'on reste sans parti comme jusqu'ici? Et en fait, le problème de LFI, c'était son manque de démocratie interne. Et donc, comment porter une ligne différente? Ce que je suis en train de vous dire ici, moi, je peux le dire haut et fort au sein du Parti Socialiste.
Vous le faire avec Ruffin et ceux qui
gueulent un peu contre Mélenchon. Oui, ils peuvent pas. Et donc, moi, j'ai une conviction très forte que m'a légué ma grand-mère. C'est que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de revenir au PS. Parce que le PS, c'est un parti dans lequel il y a des votes tout le temps. C'est une personne, une voix. Vous avez la même voix, vous êtes adhérent, vous avez le même pouvoir qu'un sénateur. Et c'est un parti démocratique dans lequel on peut emmener les gens avec nous. Et donc, je me suis dit, vraiment, PS, c'est comme le catalogue de la Redoute, en fait. C'est-à-dire que c'est une marque qui décline et on va la remonter. Wow. On doit quand même beaucoup de choses au Parti Socialiste dans notre histoire. Hein. On lui doit, bien sûr, notre modèle social, la retraite... notre système de retraite, la couverture maladie universelle, le mariage pour tous, le progrès social dans ce pays, il s'est écrit avec le point et la rose pendant de très nombreuses années. Moi, j'ai pas envie de laisser tomber ce parti, voilà, qui est un beau parti. J'ai pas envie de laisser tomber le point et la rose. Et donc, je me suis dit, c'est super ce qui est en train de se passer avec Olivier Faure qui permet de créer la NUPES. Et donc, j'ai réadhéré au Parti Socialiste. Mais je suis un jeune adhérent du Parti Socialiste. Je suis un adhérent à 20 euros, en fait. J'ai reçu d'ailleurs un courrier d'Olivier Faure il y a à peu près quelques semaines. Parce qu'ils ont un peu de retard pour m'envoyer ma carte et me dire bienvenue.
On la reçoit toujours aussi tard.
Voilà, hein, on la reçoit toujours aussi tard. Voilà.
Bon, moi, il y avait une personnalité aussi au PS. Enfin, il y avait d'autres gens aussi qui avaient un espèce de rapport aux classes populaires qui contestaient ce qui s'était fait jusque-là. Mais je pense à des gens comme Laurent Bouvet qui avait théorisé l'insécurité culturelle en se disant mince, les pauvres, les prolos, ceux dont vous parlez, c'est-à-dire ceux qui votent RN, en sachant que. Des prolos, il y en a ailleurs, qui votent pas RN, il y en a qui votent pas, etc. Mais il y avait un focus qui était un peu mis là-dessus, en se disant, ces gens-là, en fait, ils sont bousculés par la mondialisation, puis ils sont bousculés aussi par les changements culturels. Faut pas aller trop fort avec eux sur l'islam, etc. Et ça a développé tout un courant, qui est parti de là, qui a donné le printemps républicain, dont Valls aussi a pu s'inspirer, etc. Donc, il peut y avoir aussi un rapport un peu fétiche aux classes populaires, surtout de la part de gens comme vous, c'est-à-dire des énarques, des machins, des gens qui les voient un peu de haut, ces classes populaires-là, et qui se disent, ils sont un peu racistes, qu'est-ce qu'on fait du coup de ça? Est-ce qu'on accompagne? Est-ce qu'on combat? Ou est-ce qu'on tait? Vous en êtes où aujourd'hui de cette réflexion ?
Alors, moi, je ne partage pas la théorie sur l'insécurité culturelle. Ça, en fait, ça ne résiste pas à l'analyse de terrain, si vous voulez. Donc, moi, de 2018 et maintenant, j'ai dû frapper à 40 000 ou 50 000 portes et des centaines de milliers de conversations avec les uns et les autres. Chaque week-end, j'ai 300 personnes au moins que je rencontre. Les gens ne sont beaucoup moins racistes que la télévision. Bon, y compris, là, j'ai organisé un débat sur l'immigration dans un village qui s'appelle Quatre-Mars, que tu connais, qui est à côté de Bouvier, encore une fois.
Ah, les blagues de l'heure.
Les gens ont voté à 70% RN dans ce village, la dernière élection.
Ah, mais de toute façon, il y a l'heure, c'est que des députés RN,
je crois. Voilà. Nous, on a résisté héroïquement en faisant une campagne très populaire. Bon, je fais un débat sur l'immigration. 70% RN. Et j'invite les habitants du village à venir. Je fais des débats dans les villages RN toutes les semaines. Eh bien, les gens, à la fin, étaient d'accord avec moi sur la loi immigration. Et j'ai pas eu besoin, si vous voulez, m'accorder sur un certain nombre de thèmes racistes. C'est une erreur politique, voilà, de croire que finalement, ce qui empêche aujourd'hui les classes populaires dites blanches de la France périphérique et périurbaine et rurale d'en voter à gauche, ce serait les Arabes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, ce qu'ils empêchent de voter à gauche, c'est un discours qui est déconnecté de leurs préoccupations. C'est un manque de vision aussi. Je pense, certaines expressions qui sont malheureuses. Je ne crois pas à la théorie de l'insécurité culturelle. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les meilleurs scores qu'on fait, c'est dans les endroits où justement il y a le plus, entre guillemets, d'Arabes et de Noirs. Donc en fait, on voit bien que le problème, c'est pas ça. Le problème qu'on a, c'est une déconnexion de ce qu'on dit, les trahisons évidemment passées, de manière de nous adresser avec les gens, aux gens.
Alors, puisqu'on en parle.
Alors, est-ce qu'on peut parler du sujet de la classe populaire un peu après pour les européennes, parce qu'il y a un dernier pan quand même de la présentation de Philippe Brun qu'on ne connaît pas, parce qu'il nous dit que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, mais il utilise un outil qui n'est pas si vieux, qui est également Twitch, en tout cas pour les politiques. Et on vous a donc découvert comme streamer. Boris Vallot est venu nous en parler il y a quelques temps. Et je crois qu'on a une petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'aviez vue.
Cher confrère,
c'est Philippe et Boris.
Twitch. Comment ça se passe sur Twitch? Alors, ça fait quoi, un an maintenant?
Ça fait quelques mois.
Ça se passe bien, vous?
Quand on débute dans le métier, nous, on est une PME.
Mais ça vous plaît, j'ai l'impression, c'est
ouais,
cool.
Oui, on s'amuse bien. Franchement, avec Philippe Brun, là, on se marre bien.
Philippe Brun, votre collègue député socialiste également.
C'est celui qui parle.
C'est celui qui parle.
Moi, de temps en temps, j'ai le droit de l'ouvrir, mais comme je suis le boomer du truc, il me dit, c'est bon, pousse pas trop.
C'est qui le patron?
Il y a tellement de monde bourre chez Boris quand il parle, c'est affolant. Bref, désolé.
Le stream, on en est où?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe,
nous, on a un gros problème, les députés, vous savez, c'est que le mois de janvier, c'est terrible parce que c'est les vœux. D'accord. Moi, j'ai 83 communes dans ma circonscription et j'ai fait 35 cérémonies des vœux en 31 jours. Donc, en fait, les vœux, on n'était pas là, en fait, le soir. Donc, on est à plus ou moins l'heure. Encore une fois, c'est à 1h30 de Paris. Donc, le soir, je repartais pour faire les vœux, pour aller voir les gens, discuter avec eux. Donc, on n'a rien fait au mois de janvier. Et puis là, cette semaine, c'est les vacances parlementaires. De fait, du travail tous les jours, mais enfin, l'Assemblée ne siège pas. Donc, on va reprendre avec un nouveau format. Voilà.
Okay. Une exclue.
Voilà, avec un nouveau format. Voilà, Boris et Philippe reviennent, bien sûr, avec un nouveau format, avec toujours plus de cadeaux, toujours plus de blagues nulles.
Un peu plus sur le nouveau format ou pas?
Toujours plus de ringardise, parce que c'est notre marque de fabrique.
Ça nous avait pas échappé.
Deux députés socialistes ringards, une webcam et un chat, et on reste fidèle à ce concept de base.
Okay. C'est produit ce truc, hein. Il y a un nouveau format, tout.
Il y a un jingle.
Et j'ai une super équipe qui fait ça, de jeunes.
Très bien, on va revenir après aux élections européennes. Mais d'abord, vous portez, vous, depuis le début de votre mandat, une proposition de loi sur EDF. Donc en gros, si j'ai bien compris, l'État a racheté tout EDF, en tout cas est actionnaire majoritaire, pas unique d'ailleurs, mais pour en revendre des petits bouts, et vous voulez qu'une loi interdise à l'État de faire ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus clairement?
Effectivement. Alors, au mois de juin 2022, la Première ministre a annoncé la nationalisation d'EDF. On était tous contents, on s'est retourné et dit, mais qu'est-ce qu'ils font?
Où est la carotte, là?
Où est la carotte? Là, on va
Et il y en avait une.
Et donc là, moi, il se trouve que je suis rapporteur spécial de la Commission des finances, c'est-à-dire que je suis le député qui est chargé de contrôler les entreprises dans lesquelles l'État a 1 euro d'action. Donc, EDF, il y a un peu plus qu'un euro. Donc, je suis allé faire un contrôle sur pièce et sur place. C'est comme une perquisition. Donc, je suis allé à Bercy, je leur ai dit, montrez-moi les dossiers, montrez-moi la carotte. Du coup, j'ai vite trouvé la carotte, si vous voulez. Il y avait des notes de Bercy qui expliquaient, le but, c'est de monter à 100% au capital pour avoir les mains libres, pour se séparer des activités rentables. C'est quoi les activités rentables d'EDF? Vous avez compris que c'était pas le nucléaire, c'est les réseaux, les énergies renouvelables et les services. Bon, et donc, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié ensuite ces rapport dans un rapport parlementaire et j'ai fait une loi pour empêcher, j'ai proposé avec mes collègues, empêcher le démembrement d'EDF. Et puis on a eu un autre sujet qui est arrivé très vite, que vous avez tous vécu très personnellement, c'est l'explosion des prix de l'électricité. Où on s'est retrouvé dans une situation catastrophique, où certains boulangers ont vu leur facture augmenter x14.
On en a parlé d'ailleurs ici.
Et donc on a décidé là aussi de porter l'idée de rétablir les tarifs réglementés de l'électricité pour les PME, ce que le droit européen permet de faire. Pourquoi on se conforme au droit européen ? Le but c'est que la loi soit adoptée et soit cachère. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale, adoptée ensuite par le Sénat, adoptée à nouveau par l'Assemblée nationale, adoptée par le Sénat. Et c'est long parce que deux lectures. Et là, elle passe en lecture définitive le 29 février prochain.
Donc là, c'est la lecture définitive.
Voilà. Et donc, si elle est adoptée, ce sera la première fois dans l'histoire de la République qu'une loi de l'opposition est adoptée contre l'avis du gouvernement. Voilà. Et donc, vous imaginez, Emmanuel Macron a posé sa signature sur une loi qu'il n'a pas voulu et que le gouvernement a combattu de toutes ses forces du début à la fin.
Je ressens un peu de jubilation.
Alors, ça a été possible. Si je peux me permettre. Ça a été possible grâce à toute la gauche. Moi, je veux saluer les députés de gauche qui nous ont soutenus depuis le début. Chez LFI, Alma Dufour. Au PC, Sébastien Jumel, qui est mon co-rapporteur, qui est un type extraordinaire. Évidemment, chez Les Verts, Charles Fournier. Salut aussi LR, pardon de le faire, mais Olivier Marleix, qui est quelqu'un qui a toujours été en soutien du service public d'EDF et qui est un gaulliste, un vrai gaulliste. Et donc, on peut travailler, on peut trouver des accords avec les gaullistes. Ça a fonctionné sur EDF.
Sur EDF, peut-être.
Ouais. Voilà. Et donc, ils nous ont fait passer là-haut au Sénat. Ils ont voté avec nous. Et Olivier Marleix, il est venu avec François Ruffin, Sébastien Jumel et moi devant la CGT à Montreuil. Il y avait 500 délégués de la CGT. Pour faire avec nous le serment de Montreuil, bon, c'est ce qui a créé cette loi sur EDF. Donc vous voyez bien, on a réussi à réunir un large consensus pour défendre finalement le service public de l'électricité. On est un système qui est ubuesque aujourd'hui. Hein. On produit notre électricité à 60 euros du mégawatt. EDF la vend à ses concurrents à 42 euros du mégawatt. Et vous la payez 300 euros du mégawatt. Et certaines entreprises avec les contrats de marché, 700, 800, 900 euros du mégawatt. Donc on voit bien que là, il y a des profiteurs qui évidemment s'en mettent plein les poches et un marché totalement dysfonctionnel. Et cette loi, elle vise à remédier à ça, en tout cas pour les petites entreprises.
C'est ça, être de gauche, en réalité. C'est un vrai move de gauche, là, ce qui se passe.
C'est un move de gauche.
Et c'est le PS qui le fait, c'est presque inédit. Hein.
Allez-y. Si vous le souhaitez. Mais ce qui est chouette, c'est que même dans le chat, ils disent que c'est un sujet hyper technique, mais hyper important. Et je pense que vous l'avez expliqué de manière pas si technique. Donc c'était très clair. D'autres questions sur ce sujet ? Non, on enchaîne.
Non, mais moi je voulais continuer sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il y avait un truc qui me. Parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais pour moi, la grosse nouvelle politique d'aujourd'hui, c'est le décret. Publié au Journal officiel, des nouvelles coupes budgétaires, 10 milliards en moins pour les services publics, des milliers de postes qui vont être supprimés dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, la recherche, pour l'écologie aussi, il y a plein de trucs supprimés. Enfin, c'est une saignée, c'est le début de l'austérité. En gros, il y avait des prévisions de croissance à 4, et quelques, et puis en fait, c'est 4,1. Bruno Le Maire, donc, qui découvre ça, du coup, qui comme s'il savait pas. Et puis il y a le pacte de stabilité européen derrière qui en fait fait de nouvelles règles. En gros, c'est fini le quoi qu'il en coûte, mais y compris au niveau de l'Union européenne où on a dit bon, c'est bon, jusque là il y avait eu le Covid, on peut faire un peu freestyle avec les déficits, mais là c'est finito. Donc il y a eu ça, ils ont signé le pacte européen en décembre, le 20 décembre. Bruno Le Maire est ressorti du truc. Vous savez, c'est les ministres des Finances européennes, là, ils se sont mis ensemble. Bruno Le Maire a sorti, il a dit, bon, c'est bien, il était content de lui. Et puis là, il découvre ce qu'il a signé, là, apparemment, je sais pas quoi, mais donc, coupe hyper brutale. Ce pacte de stabilité, il a été voté par le groupe socialiste au Parlement.
Le pacte d'évité, non, on l'a pas voté.
Non,
bien sûr que non. C'était moi l'orateur, en plus. Alors,
Parlement européen, je parle.
Je sais pas. J'évite de regarder leur vote au Parlement européen.
Alors, je vous le dis.
cette histoire-là est quand même...
Bon, c'est une saignée considérable.
Catastrophique. Déjà, sur la méthode, on est quand même le seul pays d'Europe dans lequel le budget n'a pas été voté, puisqu'il était
49.3,
et les annulations de crédit de 10 milliards pas votées. Vous êtes maire de Louviers. Vous annulez 10 000 euros, il faut un vote du conseil municipal. Là, on annule 10 milliards, il y a vote de personne. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant sur la méthode. On aurait dû avoir ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificative pour qu'on puisse discuter de ces annulations de crédit. En plus, il faut regarder ce qui est visé, hein, l'enseignement supérieur, la recherche...
L'écologie.
Regardez, la prime rénov', ça c'est hyper intéressant. Retour de terrain. Pourquoi elle n'est pas consommée, la prime rénov'? Les gens, ils font tous des demandes de prime rénov'. il y a des délais de 6 mois, 1 an à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, pour obtenir les aides. Donc là, moi, je vous dis, ma permanence, tout, c'est une maison de service public, ma permanence, on a aidé 1500 personnes en un an. Les gens, ils viennent avec leur truc, j'ai demandé la prime rénov, on ne me l'a pas versé. Alors c'est super du coup, parce que vous mettez en place un système, vous ne mettez pas les fonctionnaires et les agents publics pour livrer la prime, vous dites, ah, elle n'est pas consommée, ah, bah, du coup, on annule les crédits. Mmh. Et on a besoin aujourd'hui d'accélérer l'isolation des logements. Vous voyez les factures d'électricité et de gaz que les gens, ils ont, quand vous voyez surtout le défi écologique.
Bah, on nous le demande, c'est l'écologie à la française.
Les émissions de gaz à effet de serre, 18% des émissions de gaz à effet de serre, la mauvaise isolation des logements, c'est urgent de se mettre dessus. Donc on voit bien que là, on est totalement à côté de ce qui est en train de se passer et de ce qu'il faut faire.
Ça fait quoi, concrètement, ça va faire quoi, 7000 postes supprimés dans l'enseignement supérieur et la recherche ? Est-ce qu'on est dans la même France après ces coupes-là et les prochaines qui sont prévues aussi pour 2025 ? Bruno Le Maire, qui est notre ministre de l'économie depuis quand même des années et des années. On pourrait commencer à le tenir comptable du résultat, déjà, de l'inflation, de notre pouvoir d'achat, et puis de l'état de délabrement présent et à venir de nos services publics. On a commencé à demander au ministère là de trouver des nouveaux bâtiments, de vendre des bâtiments, de mettre quelques employés en télétravail, etc. C'est-à-dire que là, il y a une coupe. Je sais pas si vous rendez compte.
Tu sais, je sais pas Bruno Le Maire qui est en face de toi.
Oui.
Hein.
Alors,
quelle est ta question ?
Qu'est-ce qu'il faudrait faire là pour trouver 10 milliards ? On les prend où ?
Bah, il y a plein de choses. Alors, la gauche, d'habitude, elle veut vous dire ISF, machin. Bon, évidemment, faut le faire. ISF, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, qui fait qu'aujourd'hui, on taxe plus le travail que le capital. Bon, bien sûr, il y a une niche incroyable que personne ne connaît, qui s'appelle la niche armateur. Donc, c'est les armateurs, vous savez, c'est les bateaux. Gros bateaux, oui, cargo. Il y a un quasi-monopole en France d'un armateur qui s'appelle CMA-CGM, alors qu'il y a des concurrents étrangers, mais c'est le seul, c'est notre grand acteur français. Marseille. Et en 2003, Jacques Chirac a fait un cadeau à la famille qui possède de CMA-CGM et a décidé d'accorder une niche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas taxés sur le bénéfice de la société, ils sont taxés sur le tonnage du bateau. C'est extraordinaire, parce que comme le container, si vous voulez, il passait... Bon, on n'a pas de Covid entre de 2 000 à 20 000 euros, si vous voulez. Les super profits de CMA-CGM ont été énormes. Et cette niche, elle a coûté en 2 ans 8 milliards. Voilà, donc c'est 8 milliards. Si on avait appliqué l'IS normal, vous êtes boulanger, vous faites n'importe quoi, vous payez 25% d'impôt sur les sociétés sur votre bénéfice. Là, si on avait appliqué les règles normales à CMA-CGM, on aurait pris 8 milliards en 2 ans. Donc on voit
les
bien
gens y confondent. Hein, dans le chat, c'est pas la famille Keller. La famille Keller, c'est MSC. C'est pas le même armateur.
C'est les croiseurs.
Non, là, c'est la famille Saadé.
C'est Saadé.
Oui. Saadé, qui
ça a quand même fait un nouveau milliardaire français.
Qui réinvestit du coup ses super profits dans des journaux.
Dans la Tribune
dans
du
la
Dimanche.
Tribune Dimanche. Et peut-être BFM, hein, qui est à vendre pour 2 milliards, je crois. Discussion.
Et apparemment, selon les indiscrétions, CMA-CGM serait en passe de remporter BFM.
BFM, ouais. Ils disent que non, mais oui.
Mais il y en a qui disent que c'est même déjà vendu.
Fogiel dit officiellement que non, mais apparemment, c'est déjà fait.
Alors, je voudrais revenir sur le fait que vous apparteniez quand même donc, à la direction du PS jusqu'au 1er février dernier.
C'était le 1er février, d'accord.
Ouais. C'était quoi, d'ailleurs, votre job de direction du PS ? Parce que je vous avoue que j'ai été chercher l'organigramme sur le site du Parti Socialiste.
Il y a pas l'organigramme.
Mais c'est pas hyper intuitif.
C'est sur 3615, Parti Socialiste.
Ouais.
Alors, vous étiez au bureau politique, quoi.
Oui, j'étais secrétaire. Alors, j'avais deux fonctions. J'étais secrétaire national à l'énergie. Donc, voilà. Et puis, j'étais pilote de la convention qui s'appelle Retrouvons le peuple. Donc, l'objectif, à la suite du congrès du PS, c'était de dire, ben, voilà, là, on va mettre, voilà, on va tout mettre sur la table. On va renverser la table. On va trouver un nouveau discours pour parler à tous ces gens qui nous font plus confiance aujourd'hui. On a fait 1,7% à la dernière élection. Et puis, on va trouver un moyen de porter les candidatures populaires qui existent à l'intérieur du PS. Parce que le PS, contrairement à ce qu'on pense, est un parti dont la base est très populaire. Donc là, j'ai fait un tour de France.
La base, les militants ?
Les militants. C'est pas du tout un parti embourgeoisé. Non, pas du tout. Beaucoup moins, par exemple, j'ai rien contre eux, mais beaucoup moins des écologistes, par exemple. Quand vous regardez, vous allez aux réunions, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est un parti très, très municipalisé, en vérité.
C'est ça.
Et donc, il y a beaucoup de gens dans les municipalités qui soutiennent leur maire, etc., qui adhèrent. C'est un parti très populaire. Donc, on fait le tour de France, des fédérations. On fait des débats avec les militants, souvent ouverts avec les gens autour. On a fait un truc extraordinaire à Amiens, dans les quartiers nord, où les gens sont venus nous dire ce qu'ils attendaient du PS, ce qu'ils avaient déçu, mais quels étaient leurs espoirs, s'ils avaient aimé chez Mitterrand, des gens incroyables. On a collecté énormément d'informations. Et puis, l'autre objectif, c'était de porter le principe de parité populaire. Je porte depuis longtemps. C'est quoi la parité populaire ? C'est de dire, après la parité femmes-hommes, qu'il faut continuer à défendre, parce qu'on est encore loin du compte, il faut qu'aujourd'hui, on s'applique à nous-mêmes non pas un quota, mais un objectif de représentativité, et donc de réserver au minimum 40% de nos investitures à des ouvriers et des employés. Parce que la meilleure manière, si vous voulez, pour convaincre un cariste ou un préparateur de commandes qui vote Rassemblement National de voter plutôt pour nous, c'est d'avoir un cariste, un préparateur de commandes qui lui dit « et pas un énarque ». Voilà, et je le dis, moi je suis favorable au grand remplacement des énarques par les caristes, les préparateurs de commandes et les caissières. Et il faut aujourd'hui avoir plus de diversité. Et je le dis, et alors on me dit, oui, mais t'es énarque, tu peux pas. Mais justement, Lionel Jospin, c'était un homme, il a fait la loi sur la parité. Donc on voit bien que je veux dire.
Vous faites
oui,
tout ça
oui.
et vous démissionnez.
Bah, on fait tout ça, et puis arrive le moment des élections européennes.
Et là, qu'est-ce qui se passe?
Et alors là, on a une liste avec quand même plus de 80 noms. Donc, mm-hmm. Une liste, voilà, y a de la place pour tout le monde. Et donc il y a des candidats dans le parti, des gens qui déposent leur candidature. Donc il y en a. Qui sont plutôt proches de moi, d'autres qui sont beaucoup, enfin que je connais moins, ils me disent vas-y Philippe, est-ce que tu peux défendre notre candidature? Donc on défend, on propose, on écrit, on parle à la commission électorale. Et puis il y en a cinq en particulier que j'ai défendu, notamment Stéphane Ravaclé, qui est un boulanger et qui, vous savez, qui avait fait une grève de la faim pour soutenir son apprenti qui était sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Dans la période qu'on vient de vivre, après la loi immigration qu'on a vécue, quand on sent finalement l'odeur qui est celle qu'on sent aujourd'hui, avoir un boulanger qui vous explique qu'il faut régulariser les étrangers. Enfin, je veux dire, c'était extraordinaire comme message dans cette campagne européenne. Bah, ils ont décidé de le mettre en 41e position.
Ça, c'est pas éligible, le 41e.
Oh, très, très loin.
Bah, si on fait 10%, on en place 10, quoi. Bon, donc, si on fait plus, on fait à peu près en nombre de postes, 1%, ça fait un député, en gros. Enfin, bref, si vous faites plus de 5%. Voilà. Bref, donc là, problème. Bon, donc on discute de tout ça. Et puis, donc, plusieurs candidatures sont rejetées. Et donc,
Il y avait Noah
également, qui est une ancienne téléconseillère, qui a fait l'école de l'engagement, qui a des femmes de ménage, caissière, téléconseillère, qui a fait une super campagne. Elle a eu plus de 1000
soutiens. C'est pas une de vos collaboratrices aussi?
Alors, elle travaille avec moi maintenant.
Elle a
fait l'école de l'engagement. Et voilà, c'est la seule dans son bâtiment à n'avoir callback. Elle est aussi bonne que tous les sciences pipotards, les mecs qui ont fait, je sais pas quoi, des années d'études.
Et vous les connaissez.
Et elle a fait une belle campagne.
Elle a fait une super campagne interne. Bon, et là aussi, ils lui ont même enlevé de la liste.
Oh, et alors là, du coup, vous n'êtes pas content. Donc, vous démissionnez, mais vous faites quoi? Vous partez?
Il y a un moment.
Puis même, pour parler aux classes populaires, etc., la tête de liste, elle n'est pas ouf non plus. Raphaël Glucksmann, vous en pensez quoi?
Ça fait beaucoup de questions. On y revient sur Raphaël Glucksmann.
Je ne suis
pas obligé de répondre tout de suite.
Honnêtement.
Mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je veux comprendre. Donc, vous démissionnez.
Bon, alors du coup, on discute. Bon, alors,
j'aurais pas de réponse.
Maintenant,
on n'oublie pas. Elle est notée.
En fait, moi, là, du coup, je devais présenter la feuille de route du PS pour les classes populaires dans 3 semaines. Bon, donc j'ai un sens limité du ridicule, si vous voulez. Enfin, à partir du moment où nous présente une liste où il n'y a pas du tout de gens qui viennent des classes populaires, qu'on a rabroué tous les gens qui essayaient de se présenter, qu'on leur a expliqué qu'ils n'étaient pas assez compétents, qu'ils n'avaient pas assez de diplômes. Bon, voilà, quand on a vécu ça comme ça, j'allais pas, moi, aller faire le guignol et faire un meeting en disant « Youpi, les classes populaires sont de retour au PS, c'est génial ». Moi, je pense que ce qui a tué le PS, c'est la trahison. Il faut arrêter de trahir. Le PS, ça peut être la machine à haïr et la machine à trahir. Donc, il faut arrêter de trahir. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Et donc, moi, je démissionne naturellement. Alors, je le fais la mort dans l'âme parce que je démissionne. Évidemment, le pro-escrétaire n'est pas content. Moi, je n'ai pas de ligne alternative à défendre au Parti Socialiste parce que je n'ai pas fait alliance avec ceux qui sont contre. Donc, je suis dans une difficulté aujourd'hui.
Lignes alternatives au sein du Parti Socialiste.
Oui,
il y a des courants. Oui.
Apparemment, moi, je suis.
Donc, vous, vous êtes où? Parce que vous avez quitté les fonctions de direction, mais vous n'avez pas quitté le PS.
Non.
Vous êtes où?
Bah, je n'étais pas d'accord. Moi, j'étais chargé, si vous voulez, d'une fonction. Une fonction, on m'a désavoué sur ce qu'on faisait. Je n'allais pas rester dans cette fonction-là. Maintenant, je reste socialiste, adhérent socialiste. Je pense que j'ai démissionné au nom du socialisme. Donc, je ne vais pas quitter maintenant le Parti Socialiste.
Mais quand, au sein même du Parti Socialiste, un député du parti dit « le PS ne travaille pas assez sur les classes populaires », comment vous voulez avoir la légitimité ensuite sur le terrain de défendre les classes populaires, justement?
Donc du coup, il faut reprendre le travail. Donc, c'était aussi une démission qui a créé un électrochoc. Et aujourd'hui, je ne me sens pas du tout minoritaire. C'est la question pourquoi je reste. J'ai reçu des centaines de messages, plus de 500 messages de toute la France, de militants qui m'ont dit « Philippe, continue à te battre, on a besoin de toi. »
Mais ce n'est pas les militants le problème. C'est les « fâchés, pas fachos », entre guillemets.
Voilà.
Comment vous allez les chercher, ceux-là, du coup?
Moi, je vais les chercher dans ma circonscription. On a fait un truc exceptionnel. On a gagné cette circonscription qu'on n'aurait jamais dû gagner, qui a voté largement Le Pen. On a réussi à la gagner avec un discours très différent de celui qu'on entend nationalement à gauche. On l'a fait en étant sur les ronds-points. On a fait des barnums sur les ronds-points. On a porté les sujets sociaux, les sujets de protection, de services publics en numéro un. Bon, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut aujourd'hui faire évoluer. Maintenant, très clairement, là, cette mission qui m'était confiée, je ne pouvais plus la continuer. Mais ça ne veut pas dire que le travail il est terminé. Et ça ne veut pas dire que le PS est mort. Je pense que justement, on va devoir continuer à porter ça après les élections européennes.
Justement, c'est fou parce que cette petite question entre Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, et les classes populaires, c'est une question qui ne date pas d'hier. Moi, quand je pars en 2018, c'est au moment où il nous vend le renouveau socialiste dans les têtes comme dans les idées. On a vu ce que ça a donné. Qui là va s'occuper de la place des classes populaires maintenant au parti?
Il y a une autre personne qui faisait ça avec moi, qui est conseillère régionale, donc elle va la présenter, là, elle va s'en occuper.
Ouais. Et qu'est-ce qui te répond, le premier secrétaire
Vous avez, c'est dans la presse, Olivier parce Fort, que tout ça est dans la presse. Hein. Vous avez un article du Monde qui est extraordinaire, moi je vous invite à le lire, extraordinaire, dans lequel ils écrivent, en fait, vous savez, la politique, ça fonctionne comme ça, il faut d'abord être assistant. C'est la profession réglementée, en fait. C'est une profession réglementée qui parle une langue étrangère. Donc, il faut être près du pouvoir. Donc, il faut d'abord être assistant, il faut grenouiller. Et puis ensuite, on vous donne une circonscription. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, ils sont favorables à ça. Évidemment, ce n'est pas ce qu'ils m'avaient dit quand ils m'ont confié cette mission. Donc là, on a finalement une opposition entre deux visions de la politique. Une vision plus citoyenne, populaire, celle que je défends et que plein de gens défendent au Parti Socialiste. Et puis, une vision très bureaucratique, très apparatchique, des gens qui pensent que c'est un métier, la politique, que finalement, deviens député, tu as été assistant, tu deviens député, tu prends même toi-même des assistants, une sorte de reproduction éternelle de l'assistant parlementaire ou du collaborateur d'élu. Ça tue la politique. Voilà, la politique, ça ne doit pas être un métier. Parce qu'après, quand vous retrouvez à faire de la politique et que c'est votre métier, vous ne pouvez pas prendre de position courageuse. Vous retrouvez face à Hollande et Valls, vous votez pas la censure au moment où ils font le 49-3 sur la loi El Khomri. Vous le faites pas parce que vous avez peur de perdre votre mandat, parce que vous n'avez pas de métier à côté. Donc moi, je pense que c'est très important, cette question de la professionnalisation de la politique, parce qu'une partie des trahisons reprochées au PS, elles viennent de cette trop forte professionnalisation.
Et votre école, pourtant, elle cherche à professionnaliser des gens dont c'est pas le métier pour qu'ils en fassent leur métier.
C'est pas la professionnalisation, au contraire, c'est juste de leur donner les clés pour pas qu'ils se fassent broyer. Voilà, c'est tout. Donc, à la fois des outils de défense intellectuelle, parce qu'on peut avoir une vraie envie de changer le monde, mais c'est bien d'avoir lu ses classiques, d'avoir lu Bourdieu, d'avoir donc des outils de défense intellectuelle. Voilà, quand on vous raconte n'importe quoi, d'avoir des bons réflexes. Ensuite, des savoirs techniques pour pas se faire avoir non plus par le premier technocrate qui vient vous dire que c'est pas possible. Donc du droit, de l'économie, des finances publiques, et puis des savoir-faire politiques. Parce qu'on a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi le mouvement des jaunes il s'est écrasé à un moment. Parce qu'il y a problème de savoir-faire, monter une coordination, comment on fait pour voter entre nous, ça s'est mal passé. Donc là, il faut le savoir-faire politique. Comment on fait une pétition, comment on monte une mobilisation, comment on monte une manif, comment on monte une coordination, comment on se présente à une élection. Parce qu'aujourd'hui, là aussi, la profession réglementée, quand vous n'avez pas un euro en caisse, comment vous faites pour vous présenter à une élection? Ça coûte cher une campagne. Bref, donc on apprend tout ça à l'école d'engagement. Ce n'est pas du tout la professionnalisation, c'est juste de donner des clés pour ne pas se faire broyer par le système.
Pour pas qu'il y ait finalement que ORN qui ait des écoles, quoi.
Aussi. Voilà.
Bon, le chat.
Alors oui, justement, j'allais dire. Allez, Usul, est-ce que t'avais pas une question sur les européennes et sur la tête de liste?
Le chat, il dit bon, alors oui, Glucksmann, on en pense quoi? Comment ça se passe? Parce que voilà, la campagne là qu'il est en train de faire, elle est pas tellement sur la défense des services publics européens, je sais pas quoi. On est parti sur complètement autre chose, les trucs de Glucksmann. Voilà. On en pense quoi? Est-ce que ça se passe bien?
Écoutez, oui, la campagne n'a pas vraiment commencé. Donc, en tout cas, le programme qui est suivi du Parti Socialiste, c'est un programme dans lequel je me retrouve tout à fait. Celui qu'on a adopté pour la Convention Europe, dans lequel on a fait des amendements très intéressants sur le protectionnisme européen, sur la défense du service public. Raphaël Glucksmann a eu des positions différentes des nôtres il y a de nombreuses années. Il a écrit un livre pour s'en expliquer. Et aujourd'hui, quand il parle, je ne me sens pas en désaccord fondamental avec ce qu'il dit. Maintenant, on va voir quelle sera la tonalité de la campagne. Je crois que le sujet, il est social. Ceux qui pensent qu'on va faire une campagne seulement sur la géopolitique ont tort.
Les Insoumis insistent sur le fait que l'ouverture à l'Ukraine de l'Union européenne, c'est encore un nouvel élargissement du marché commun, encore une nouvelle mise en concurrence des travailleurs les uns avec les autres. Et puis, puisqu'on parlait de Louviers, moi, mon père, il était à l'usine à Andé.
De carbone
était racheté par General Motors qui a délocalisé tout ça alors en Roumanie, en Bulgarie, je sais pas quoi. Donc moi, les délocalisations, c'est très concret. On était sous Jospin à ce moment-là, et donc c'était les socialistes. On a demandé François Loncle, faites quelque chose, etc. Rien n'a été fait. L'État, il ne faut pas attendre tout de l'État. C'était ce moment-là sous Jospin. L'élargissement à l'Ukraine, on continue d'élargir. Est-ce que peut-être que le PS pourrait aussi faire un bilan de ces élargissements, de cette construction européenne qu'il continue de défendre fermement, et en plus maintenant avec un côté un petit peu belliciste.
Donc moi, ma position personnelle, c'est que moi, je suis favorable à l'adhésion de l'Ukraine, mais pas à l'ouverture du marché. Mmh. Il faut trouver une solution pour avoir une solidarité continentale, pour dire au peuple ukrainien, nous vous aidons, nous sommes à vos côtés pour résister à l'impérialisme russe, mais on ne va pas ouvrir le marché, je suis défavorable. Voilà, je crois encore une fois que le libre-échangisme a tué la gauche et la promesse de gauche dans ce pays, parce que vous ne pouvez pas faire... On parlera peut-être de l'agriculture tout à l'heure, mais on ne peut pas faire à la fois, si vous voulez, ouvrir en grand les frontières et de l'autre côté, mettre en place des régulations sociales, environnementales pour protéger les gens. Donc on est obligé, de toute façon, de protéger notre modèle social, notre modèle environnemental. Et donc là, l'ouverture à des pays, la Moldavie, l'Ukraine, dans lequel le SMIC est à 90 euros, ce n'est pas acceptable.
Donc en fait... La campagne des Européennes, c'est
Non, elle n'est pas dead.
Du coup, là, vous n'êtes pas d'accord avec Glucksmann.
Est-ce qu'on est en train de se préoccuper de la présidentielle?
Non, mais écoutez, d'abord, la campagne européenne... Dézoomons un petit peu sur la campagne européenne. Déjà, dire que le problème de cette campagne, là, les qualités des uns et des autres, des têtes de liste, etc., c'est qu'on commente une bataille de nains. C'est une bataille de nains, parce qu'on est tous en moins de 10% ou autour de 10%. Mmh. Et que d'abord, il fallait faire l'union... à cette élection européenne.
Ah oui, vous étiez pour l'union de la gauche.
Moi, j'étais membre du bureau national, j'étais le seul à avoir dit il faut faire la liste commune, élection urbaine. Sauf qu'en plus, c'était intéressant, parce que c'était pas une liste LFI, parce qu'ils disaient on vous laisse la tête de liste, c'était génial.
Ils voulaient laisser aux écolos.
Voilà, on laisse à quelqu'un d'autre la tête de liste. Donc c'était intéressant de montrer un autre visage de l'union de la gauche. Et moi, je pense qu'il fallait jouer le match avec Bardella. Parce que là, on a décidé collectivement de dire le 9 juin, il fera 30%, ça y est, il est gagnant, en fait. L'affiche, il est gagnant de fait, en fait. On a décidé de le faire. Donc, c'est ça, le premier problème. Alors après, du coup, on se retrouve séparés à 4 ou 5 listes de gauche. Bon. Du coup, on va regarder les petites différences, sachant qu'à la fin, on vote quand même beaucoup pareil au Parlement européen. On va évidemment exacerber les discours un peu haineux sur Glucksmann, qui, je pense, sont excessifs. Même si, évidemment, hein, moi, je suis de Louviers, je suis pas de Paris. On n'est pas la même vie. On n'a pas la même manière de parler.
Ça, on le saura. Ça, c'est sûr.
Mais je veux dire, au-delà de ça, je trouve que on l'accuse très injustement de beaucoup de choses. Voilà. Et ensuite. Donc voilà, ça. Après, on va aller taper sur les communistes, on va taper sur les insoumis. Ça. Donc ça va être un jeu de massacre. Donc est-ce qu'il faut enjamber cette période? Je pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas trop commenté cette campagne européenne parce que moi, elle me désespère d'avance.
Donc,
C'est perdu d'avance. Avez,
voilà, les européennes, elles sont.
Non, on fera autour de. Il y aura un total gauche 30%. Voilà, on n'y peut pas grand-chose.
Oui, mais acter le fait que l'extrême droite aura 30%, c'est un aveu de défaite, pour le coup.
Bah, c'est la division de la gauche, quoi, qui est la défaite déjà. Ouais.
Mais vous nous parlez aussi des classes populaires, des gilets jaunes. Donc, quid en 2027? Est-ce que vous préparez le terrain pour Ruffin?
Ah, tiens, c'est intéressant ça.
Oui, je pense qu'il faut qu'on ait un candidat qui parle à cette France-là. Oui, Ruffin en fait partie de ces candidats-là. Et il y en a d'autres, bien sûr, qui peuvent avoir envie d'y aller. Il faut qu'on ait une candidature unique et il faut qu'on travaille là-dessus, voilà, de manière vraiment prioritaire. Les élections européennes, évidemment, on parle que de ça depuis 2 ans parce qu'on n'a pas d'autres élections depuis. Donc ça. Bon, ça passionne pas les gens en vérité. Hein. Les journalistes me disent qu'ils n'arrivent pas à vendre de papier sur les élections européennes. Les gens s'en foutent complètement.
Je te coupe parce que sur Brexit, on a fait une émission dédiée entièrement au Parlement européen. Il y a 2 semaines. Et franchement,
ça a marché.
Bah, en vrai, on a eu de très bons retours.
C'était bien.
Bon, tant mieux. En tout cas, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même se souvenir des élections européennes précédentes. Mmh. On ne peut rien tirer comme jugement politique définitif sur les élections européennes. 99. Les chasseurs, ils font, je sais plus combien, 6-7%. Enfin, ils font des députés européens. Les chasseurs, Villiers et Pasqua, ils sont devant Sarkozy. C'est quand même.
C'est des élections un peu laboratoires où il y a des trucs qui.
2009, les écolos sont à égalité avec le PS. Bon, 3 ans plus tard, le PS est à la présidence de la République et Eva Jolie a fait 2%. 2019, Manon Aubry doit faire 6%. Glucksmann fait 6%. Les Verts sont en tête. Jadot, il fait 4% à la présidentielle et Mélenchon, il fait 23%. Vous voyez bien que ces élections-là, c'est une élection un peu bizarre. Donc, en tirer des enseignements pour la suite, et même entre nous en disant « je vais être le leader de la refondation de la gauche parce que j'ai fait 10,2 et qu'il a fait 8,9 », enfin, je veux dire, ça, c'est ridicule. Donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas trop désespérer ces élections qui s'annoncent désespérantes. Il ne faut pas trop désespérer parce qu'elles ne sont pas si importantes que ça pour la reconstruction de la gauche pour la suite.
Et est-ce que vous seriez prêt à quitter le PS pour François Ruffin en 2027 ou pas?
Non, mais François Ruffin dit qu'il est socialiste, donc je pense plutôt qu'il devrait adhérer au Parti Socialiste.
Ah, c'est dans ce sens-là que ça se passe, pour que Philippe Brun puisse être le premier ministre de François Ruffin.
Il dit pas qu'il est socialiste, il dit je suis vraiment socialiste.
Il n'y a pas de social-démocrate.
Parce que moi je me suis fait taper dessus par l'équipe de François Ruffin, parce que j'ai dit ici qu'il était social-démocrate, et non, il a dit je suis social et démocrate. Ils m'ont défoncé pour ça, donc je...
Et il le disait en se comparant au PS. Il disait moi je suis vraiment social et vraiment démocrate.
Vraiment démocrate.
Donc, petit fion pour le PS en plus. Mais par contre, j'ai vu que ça marchait super bien, parce que tout le monde a entendu social-démocrate et qu'en ce moment, il fait même la tournée des chefs d'entreprise, etc. Alain Minc a dit que sa candidature était très intéressante.
L'Obs avait fait la une avec cette phrase.
Mais c'était social-démocrate, donc la une de l'Obs, on est d'accord.
Sauf qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il a dit, apparemment. Voilà.
Est-ce que vous avez une dernière question? Parce qu'on arrive vers la fin de notre entretien, donc c'est une dernière remarque.
Oui, c'est très bien, toutes les élections européennes, etc., la vie interne du PS, la reconstruction du PS, mais très très concrètement, là, les attaques contre les droits des travailleurs, contre les salaires, le chômage, etc. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste de ce que se mangent les Français dans la gueule et vont continuer de se manger dans les années à venir. C'est quoi la perspective là? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on a des axes de lutte en dehors d'attendre les prochaines élections?
Oui, alors d'abord l'Assemblée nationale. Alors, on a obtenu un nombre de victoires importantes depuis 2 ans. On n'a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai fait adopter un chèque pour les gens qui se chauffent au bois l'hiver. On avait battu dans l'hémicycle du gouvernement, il a été gardé. Fait adopter des aides pour les familles monoparentales, on en parlait. Ça, c'est Ingrid Levavasseur, celle qui m'a tout appris sur les familles monoparentales. J'étais hyper content de voir les gens.
Elle est de Louviers aussi.
Elle est de Louviers.
Ah, mais bon, c'est vrai.
Ensuite,
j'étais au collège.
Ouais. Et ensuite, il y a la loi sur EDF. Bon, voilà. Donc, on a, sur le plan législatif, plein de choses à gagner en trouvant des alliances un peu baroques avec les uns les autres pour apporter des victoires tout de suite, ramener des victoires à la maison.
Ensuite, faire signer des lois Emmanuel Macron auxquelles il
s'opposait. Voilà, donc ça, ramener des victoires à la maison, au Parlement, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, bien sûr, c'est s'engager au quotidien, évidemment, pour défendre les gens. Là, on a créé avec des agriculteurs, justement, de l'heure et puis un peu de partout maintenant, il y en a 800 qui ont signé, un mouvement qui s'appelle Justice pour nos agriculteurs. On attaque l'État en justice pour interdire l'importation des produits agricoles qu'on fait l'objet de traitements de pesticides qui sont interdits en France. L'idée est qu'on ne peut pas importer ce qu'on n'a pas le droit de produire chez nous. Il y a une loi qui interdit ça, c'est la loi Egalim, l'article 44 de la loi Egalim. Elle n'est pas appliquée par le gouvernement. Là, on saisit le Conseil d'État, on les attaque en justice. C'est comme l'affaire du siècle, mais avec les agriculteurs. Et on a lancé ça là, en quelques jours, on a plus de 800 personnes qui ont signé avec nous, des agriculteurs et des consommateurs, pour aller en justice avec nous. Donc il y a la bataille aussi judiciaire, politique, sociale à mener de tous les instants, en allant systématiquement chercher les gens qui s'éloignent de nous tout le temps, les agriculteurs, le monde rural de manière générale, aller chercher les artisans commerçants, c'est ce qu'on a fait avec la loi sur EDF, parce que moi j'ai vu des manifestations de boulangers avec la CGT, c'était extraordinaire. Vous avez les boulangers d'un côté, et la CGT d'EDF avec les ballons EDF-GDF 100% public. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut défendre aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ça finalement la gauche? C'est défendre tous les petits, tous les opprimés, tous les gens qui n'ont rien à la fin du mois, quel que soit leur statut. Et tous ces gens-là, ça faisait très longtemps qu'ils se retrouvaient pas, qu'ils n'allaient pas manifester pour nationaliser des boîtes, hein, les boulangers, les artisans, les commerçants, les restaurateurs, les pressings. Là, ils sont avec nous. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on défende. Comme on gagne pas la bataille politique, parce qu'on n'a pas d'élection pour gagner la bataille politique nationale pour l'instant, il faut gagner la bataille culturelle. Le combat qui est le mien, celui de tous ceux qui partagent ce qu'on raconte, c'est un combat culturel pour pouvoir l'emporter en 2027.
Et ben c'est le mot de la fin.
C'est le mot de la fin.
Merci beaucoup, Philippe Brun, député PS de l'Eure. Et alors maintenant, on le sait, de Louviers. Hein, je pense que c'est quand même un point très, très important d'être venu sur notre Twitch, chaîne Twitch à nous, celle de Jean Massier, d'avoir fait une petite incartade à Boris et Philippe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et très bonne soirée.
Et à très bientôt à Louviers.
Et à bientôt à Louviers.